Araga, dirigé par Kamar Idir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga Nafi d'Aad Galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie. Elle fait appel à la rue qui la réinterpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et c'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille. Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18h, m'sa'a rabia hatta sa'a sa'disa. إخواتي أخواتي مرحبا بكم زوف اللون السلام عليكم بونجور tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien ainsi que العائلة تاعكم يعني الفاميليا ديالكم. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025 et nous sommes heureux d'être parmi vous. Ya الخوا رانا مسرورين معاكم هنايا في مارسيليا. Donc mon émission va durer 2 heures comme chaque jeudi. Zou soya. Eh oui, mes chers auditeurs et auditrices, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la psychiatrie. Pendant presque 20 ans, nous avons traîné le micro à Marseille et en dehors de Marseille à la recherche des gens qui ont passé leur temps dans des psychiatries ou bien dans des résidences. Nous avons réussi à faire des ateliers avec eux et à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la folie. Pourquoi ils deviennent SDF? Pourquoi ils se retrouvent dehors? Pourquoi ils sont complètement oubliés? Et pourquoi ils deviennent, je m'excuse le terme, comme des clochards? Vous allez comprendre pendant ces 2 heures, en écoutant tous ces témoignages. On a donné la parole aux médecins, aux psychologues, aux psychiatres, aux sociologues, aux historiens, des gens du social. Je remercie beaucoup HAS qui nous ont ouvert la porte, le marabout, Un chez soi d'abord, Thomas Bossetti, Kerimel, qui a pris la retraite, qui nous a ouvert la porte à HAS, rue de Petite Marie. Donc je vous laisse suivre ce reportage, ce documentaire réalisé par Kamar Idir. Bonne écoute.
Radio Galère, Marseille, Lily, Kamar et toute la bande des centaines de personnes qui battent le pavé jour, nuit, pour que Radio Galère puisse continuer à vivre, à faire chanter, à rêver et à aider les gens les plus démunis. Eh bien moi, je vais vous dire un seul truc pour vous dire qui je suis. Je m'appelle Lily. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2017, n'est-ce pas, Kamar? Eh bien moi, je ne vis pas ma vie en rêve et c'est pas d'une phrase de moi. Je l'ai juste inversée. Moi, je rêve ma vie en la vivant. Par exemple, ce matin, je me réveille, J'entends des oiseaux. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends une boule de beurre, des graines que j'avais pour faire des colliers. J'ai mis tout ça ensemble dans un petit sachet. J'accrochais avec mon balai, j'accrochais ça à la branche. Moi, ce matin, une heure après, il n'y avait plus une seule graine, plus rien de graisse. Ils avaient tout bouffé, les oiseaux. Eh ben, je me suis dit, tiens, le bon Dieu, il est de retour. Chaque jour, on se rapproche du printemps. Et voilà, c'est Lily. C'est la vie. C'est Lily. Radio Galère est de retour.
Radio Galère organisée tous les lundis au Marabout, dans le jardin de la maladie mentale, émission organisée par Liharaga. Elle est diffusée sur les ondes de Radio Galère 88.40. Elle est imaginée avec des patients et des soignants du monde de la psychiatrie. Les micros de Radio Galère sont installés dans les jardins du Marabout. Quartier au mur graffé à deux pas de la Canebière. Les patients discutent de la maladie mentale à l'adolescence. Pendant 2 ans, Radio Galère se mue avec le Marabout. Une radio issue de rencontres menées tout au long de l'année 2018-2019 avec des soignants, des patients et des intervenants en psychiatrie. Le centre de Marseille est un endroit qui échappe d'une certaine manière au contrôle et où se retrouvent beaucoup de profils atypiques. S'il y a un endroit où l'on peut entendre cette parole, c'est bien ici. Donc ensemble, on avait cette envie de faire bouger les représentations liées à la santé mentale et à la différence, poser la question de la psychiatrie dans l'espace public. On est parti de notre expérience de terrain, de notre pratique radiophonique. Nous étions inspirés par l'expérience de la Colifata, cette radio créée dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires en Argentine.
Bueno, debo decir que he sido educado en aquello de que toda autoridad viene de Dios.
Sabias palabras.
La filosofía era un tema de los eruditos.
LT22, sabias palabras. Radio La Colifata.
La filosofía era un tema de los eruditos.
Sabias palabras.
Bueno, debo decir que he sido educado en aquello.
La diferencia par rapport aux autres projets, c'est la fragilité des personnes. J'exprime ma relation directe avec la psychiatrie. C'est très beau parce qu'il y a beaucoup d'affection entre tous les participants au projet. En proposant des ateliers d'écoute et de prise de son, Radio Galère apporte de nouveaux moyens d'expression, ceux de la radio. Radio Galère, dans la voix à celles et ceux dont la parole est toujours coupée. Les participants s'interrogent sur la définition de l'épanouissement. Alors, à tour de rôle, chacun prend la parole pour tisser une réflexion polyphonique sur le bonheur, le rap, le plaisir, le slam, raconter son enfance, d'être ensemble aussi et de sentir faire partie d'un collectif. Une histoire où la radio, elle a aussi joué son rôle. Moi, je m'épanouis parce qu'on travaille ensemble. Depuis que je fais la radio, je n'ai plus la même écoute de la ville et des gens qui m'entourent, témoigne Farid. En travaillant sur la voix, je me suis rendu compte qu'un cheveu sur la langue, une voix qui bégaye ou qui tremble, ce ne sont pas forcément des défauts d'un point de vue radiophonique. Cela peut même être très intéressant. En écoutant Radio Galère, on entend la difficulté de mettre des mots sur la souffrance et sur la maladie mentale qui étiquette et isole. L'objectif premier de la radio reste la déstigmatisation. Ce qui fait peur, c'est bien souvent la méconnaissance. Sortir hors des murs, c'était l'occasion d'aller à la rencontre des gens et faire tomber les tabous.
Une pause se viendra peut-être à un moment ou un autre. On part sur les interventions et pour commencer, ça sera Madame Adeline Azan.
Docteur Bossetti Thomas, médecin en psychiatrie à Aix-en-Provence.
En quelques mots, donc vous êtes contrôleur des lieux de privation de liberté depuis juillet 2014. Vous veillez donc au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Alors ça inclut beaucoup de monde en fait, hein. Il y a les personnes sous écrou, mais aussi des personnes qui bénéficient de soins sans consentement. D'ailleurs, vous avez insisté lors de ce mandat, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça, oui, que vous alliez mettre l'accent sur les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques. Et vous avez à cœur de nous faire remonter en tout cas des données au niveau national. Et notamment, vous vous êtes positionné cet été sur la question de la contrainte dans le soin psychiatrique et vous allez vous interroger avec nous sur la recherche d'alternatives à l'enfermement. Je vous laisse la parole pour 15 minutes.
Dans un lieu où elles sont privées de liberté par une décision de l'autorité publique, c'est-à-dire les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les commissariats pour les gardes à vue, les centres de rétention pour les étrangers et les douanes également. J'ai fait effectivement de la psychiatrie une priorité, non pas que le reste n'est pas vu et ne nous intéresse pas évidemment, mais parce que il m'a semblé que dans ce domaine de la psychiatrie, et particulièrement bien sûr de la psychiatrie contrainte, puisque c'est là seulement que nous sommes compétents, il y avait des atteintes extrêmement importantes aux droits fondamentaux des personnes et qu'il fallait les observer davantage, les dénoncer davantage et faire plus de propositions. C'est donc ce que je m'emploie à faire depuis maintenant exactement 4 ans, puisque mon mandat est de 6 ans. Alors, sur cette question justement de la psychiatrie sous contrainte, on a commencé à travailler beaucoup sur la question de l'isolement et de la contention. C'est-à-dire qu'on a analysé cela comme évidemment une contrainte, une restriction des libertés très importante dans une procédure qui elle-même évidemment est déjà restrictive de liberté, qu'est l'hospitalisation sous contrainte. Et en visitant de nombreux établissements, il nous est apparu que l'isolement et la contention étaient, en tout cas jusqu'à une époque très récente et encore un peu maintenant, étaient totalement banalisés, étaient employés sans règles finalement. D'ailleurs, il n'y avait pas de loi qui encadrait ces pratiques. Et surtout, c'était banalisé et même parfois, c'était employé, ça l'est encore, parfois, heureusement, ça rarement, comme des mesures de sécurité, voire même de sanctions. C'est ce qu'on a vu. Donc, on a dénoncé dans deux établissements particulièrement, qui ont fait particulièrement de bruit. On a fait des recommandations en urgence à l'issue de constats particulièrement alarmants. Il y a 2 ans à Bourg-en-Bresse, au centre psychothérapeutique de l'Ain, et il y a quelques mois au CHU de Saint-Étienne. Donc ça, c'est sur l'isolement et la contention. Et nous avons obtenu, pas nous seulement évidemment, puisque on n'était pas les seuls à dire que ces mesures s'effectuaient sans encadrement légal et de façon beaucoup trop banalisée, mais nous avons les uns et les autres obtenu que le législateur, dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé qui a été voté le 26 janvier 2016, vote un article qui encadre ces mesures d'isolement et de contention, avec l'obligation d'un registre, l'obligation que ça ne dure que quelques heures, puis ensuite renouvellement, enfin avec toute une série d'encadrements. Le problème de cette loi et de l'application de cette loi, c'est que cette loi a été faite pour encadrer bien sûr ces mesures, mais le législateur avait derrière la tête, si je puis employer cette expression, le fait que encadrer ces mesures allait faire baisser les mesures d'isolement et de contention. Et finalement, on s'aperçoit pour le moment, non seulement que cette loi n'est pas respectée partout, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'établissements ne se sont pas encore mis en ordre de bataille pour respecter la loi, et que quand elle est respectée, eh bien, c'est, disons, une procédure supplémentaire pour les médecins, pour l'hôpital, et pas un moyen de s'interroger sur la pertinence de cette mesure d'isolement et de contrainte, et de s'interroger sur quels sont les autres moyens qu'on a essayés avant d'en arriver là. Or, c'est ça le fondement de la loi, c'est pas simplement de dire il faut que vous l'écriviez sur un registre, il faut que ceci, il faut que cela, c'est faire baisser ces pratiques. Malheureusement, ça n'a pas encore produit de résultats.
Malgré tout, que mon père ne travaillait pas, hein, quand après ils se sont mariés, on s'est installé à Gardanne, à Aix-en-Provence, Cocobivert, et c'est que mon père, à ce moment-là, peut-être, je n'en veux pas qu'il se repose en paix, mais quand même, je lui pardonne, parce que j'avais toujours rêvé de vouloir connaître un père et avoir l'affection et l'amour d'un père, mais malheureusement je ne l'ai pas eu parce que mon père, il était alcoolique Et s'il était alcoolique, je crois savoir pourquoi. Il buvait pour essayer de compenser, de se dire, d'oublier. Mais j'ai atterri à Gardanne. Moi, je suis née en 1970. Je suis la dernière. La dernière. Et donc, mon père, moi, j'étais petite. C'est après que ma soeur, l'aînée, m'a raconté que mon père, il passait son temps à aller dans les bars à Saint-Péguy, à flamber aux cartes avec de la 6 à 8 mois, et qu'elle est tombée enceinte de moi en arrière. En arrière. Et j'ai une tache de naissance, que quand je prenais une douche et que je me suis mise à crier, que je dis à ma grande sœur, ma sœur, viens voir ce que j'ai derrière mon dos. C'est une grande tache rouge. Ça me fait peur, c'est quoi? Et c'est là qu'elle m'a raconté que ma mère, quand elle allait prendre des bidons d'eau jusqu'au puits à la colline, qu'elle était tombée enceinte de moi. Alors que mon père, il passait son temps à boire de l'alcool, à flamber, gaspiller l'argent de ma mère, de ses allocations familiales. En fait, il y a Aix, la capitale, et après, il y a les collines, Cocobivert. C'est un village. C'est un village. À l'époque, moi, je suis née en 1970, il fallait aller chercher de l'eau au puits. Et ma mère, c'était en plein hiver, il neigeait, elle y allait toute seule.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Arabes qui habitaient là-bas?
Oui, il y avait même ma tante, mais ma tante n'était pas trop solidaire avec ma mère. Donc, elle la voyait rarement, il s'entraidait pas assez. Mais par contre, ma mère, justement, par rapport à mon père qui l'a batté et qui l'a frappé dans la tête, et c'est à ce moment-là que ma mère, en 1995, que je suis rentrée en prison, ils lui ont trouvé 6 tumeurs au cerveau. Ils l'ont opéré de 6 tumeurs au cerveau, alors que moi j'étais en prison, que j'étais incarcérée pour 10 grammes d'héroïne synthétique. Et quand j'ai demandé, ma sœur est venue avec tous les papiers nécessaires en disant au juge, parce que j'étais passée en jugement pour une permission pour aller voir ma mère au coma à la Timone, alors qu'on me l'a refusé.
Alors moi je suis Nathalie Romagnier, psychologue clinicienne à l'hôpital Édouard Toulouse. Donc en fait hier j'ai co-animé le débat sur la cyber-addiction et avec une autre personne, et bon, il y avait aussi un psychiatre addictologue et puis une interne en psychiatrie qui était là pour parler de leurs recherches et de ce qu'ils pouvaient dire en fait sur la cyber-addiction. Alors moi, je travaille en périnatalité avec des mamans et des bébés et des papas, et en fait, en effet, on peut dire que aujourd'hui, le numérique rentre en ligne en fait, jusque dans nos thérapies, puisque les patients vont sur Internet pour se renseigner, pour avoir des tutos, des speakers qui viennent leur parler de comment en fait on éduque un enfant et comment on fait avec un bébé. Eh bien en fait, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Je crois que c'est toujours la même question. C'est-à-dire que ça peut être pas mal parce que y a des parents qui sont vraiment perdus. Moi, je vois des mamans, parfois même des papas, en fait, qui sont complètement perdus avec leur fonction, on va dire, parentale. Et du coup, ils trouvent, en fait, on va dire, un mode de faire, un repère, en fait, avec des vidéos qu'ils voient sur YouTube. Donc, et puis, bon, il peut, je pense, y avoir des bêtises, quelquefois, mais il y a aussi des vidéos qui sont pas mal, en fait. Moi, j'ai un père qui m'en parlait hier. Il me disait qu'en fait, il regardait des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire avec un enfant. Et donc là, il a un bébé de 6 mois. Donc pour l'instant, il me dit, bah, je ne peux pas trop interagir parce qu'elle est encore petite. Mais quand elle sera plus grande, en fait, j'ai compris en fait, avec cette vidéo que ça ne servait à rien de demander à un enfant de nous regarder droit dans les yeux. Et je dis, ah oui. Et il me dit oui, parce que en fait, la vidéo m'expliquait que en fait, suivant le regard, si par exemple il part à droite, c'est du côté de l'imaginaire, s'il part à gauche, c'est du côté en fait, de la réalité. Et donc, du coup, il ne faut jamais demander à un enfant de vous regarder droit dans les yeux.
Ali Benrezkallah, écrivain, sociologue, anthropologue, réalisateur.
Alors, cette édition est la continuité du concept qu'on a mis en place. C'était comment regrouper toutes les facettes de la souffrance, de la santé mentale, et tous ceux qui s'interrogent sur les possibles de guérison ou de faciliter les gens à vivre avec leur souffrance. Donc du coup, comme personne avait une réponse, on s'est retrouvé avec les chercheurs, les psychiatres, les acteurs sociaux, les pharmaciens, les médecins. On a essayé de créer un événement pour que chacun puisse avoir une entrée et essayer de faire ensemble une réponse collective.
Et donc, c'est un thème un peu particulier, à savoir le numérique, mais dont on parle beaucoup, y compris maintenant, on parle de médecine numérique. Enfin, est-ce que vous avez quelques pistes par rapport à...
Mais ce soir, c'est la thématique, le débat, il est fait sur ça. Ce soir, c'est le numérique, la nouvelle donne de la santé. Et quand on est... je ne vais pas vous donner les pistes, donc ce soir, je vous invite à ouvrir votre micro. Et vous allez avoir une grosse matière sur la question que vous me posez.
Ok. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme type de... Enfin, vous m'avez plus ou moins répondu à la première question, mais concrètement, ceux qui s'impliquent là aujourd'hui dans votre manifestation.
Et nous, qu'est-ce qui s'implique aujourd'hui? C'est chacun dans sa discipline existentielle ou professionnelle. Comment ensemble, on se remet dans une nouvelle façon d'aborder les problèmes, pas chacun de son côté, mais tous ensemble.
Voilà. Mais il y a aussi une volonté festive quand même. C'est-à-dire...
Mais ce n'est pas une volonté festive, c'est que la santé mentale, elle aussi, quand on commence à initier et faire une approche en immersion, on s'aperçoit qu'il souffre beaucoup de sociabilité, de solitude. Donc, le côté festif, c'est plutôt un côté ludique. Un côté où, dans ces journées-là, ils trouvent un espace où, à la fois, ils s'informent, à la fois, ils s'expriment, et à la fois, ils puissent manger et faire la fête.
Et donc, là, il y avait beaucoup de jeunes, aujourd'hui, en particulier. Est-ce que, les 3 jours, une fois terminés, est-ce que vous continuez à les suivre? Est-ce qu'il y a des structures pour les suivre, etc.?
Mais tous ces jeunes viennent avec des structures. Chacun nous amène leur structure. En fait, nous, on les invite à quitter ces structures pour trouver un lieu commun, un lieu où on fait tout ensemble. Et après, la fête, leur vie, elle reprend. Nous, on n'offre pas ce rêve de dire « ici, vous allez oublier votre vie ». Non, ici, vous avez des petits moments agréables, ou aussi, c'est comme tout, dans la vie, il y a des petits moments heureux, des moments malheureux, et il y a la routine. Et là, c'est des moments qui sont excentrés.
E.T. Téléphone maison. Téléphone maison.
Atelier dans les locaux de Marabout Farid.
On prend la toilette, on prend le bain, on goûte un petit peu, on prend le bouquin, l'agenda, des rêves et tout, et on note, plein de notes, tout ce qu'on a entendu. Moi j'essaie de faire Stephen King. J'essaie de reproduire Stephen King de 100 pages. Un petit bouquin comme ça.
200 pages.
600 pages. 600, ouais. Des petits monstres d'hommes, des mains de boue rouge. C'est où se cacher le tueur. Retoucher dans un immeuble. Le meurtre le plus grand. ou le préfet. La musique, plutôt à moi, c'est du Elvis, du Johnny, du Joe Cocker, des variétés 80. Ouais, moi, c'est les années 80, la musique. Sinon, j'ai commencé par rock'n'roll, Elvis, Jazzim, tout ça. Pantin, d'ailleurs, suite, Super Tram, Joe Cocker, B40, Jimi Hendrix, plein, Stevie Wonder, ouais, il est bien Stevie Wonder.
Mais est-ce qu'il existe toujours Stevie Wonder?
Ce qui me plaît, c'est Barry White.
Ah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup.
Il est magnifique. Il est plein. Après, j'écoute beaucoup Barry White. Je mets la centrale dans la voiture et j'écoute Barry White. Je fume un bon tarpin. Je mets du Barry White, du Bruce Springsteen, du Cooker, du Dire Straits.
Quel style
De Kosovo. Les premières chansons, les premières musiques élaborées et évaluées.
Et lui, ce sont ses descendants d'esclaves, lui.
C'est une descendante d'esclavage par une injustice. Mais l'esclavage, ça se contient ou ça se contient pas, je ne sais rien. C'est pas tous les mêmes pays qui fonctionnent pareil. Il faut voir à l'extérieur. Il faut voir dans les pays pauvres.
Mais toi, quand je te vois comme ça, Farid, tu es un artiste quand même. Tu m'as cité tous ces grands groupes et chanteurs magnifiques.
Groupes et chanteurs magnifiques. Moi, j'ai connu Edith Piaf. Edith Piaf.
Quelles chansons?
Toutes. Elle est de ma famille, je sais qu'elle est de ma famille, elle est dans mon livret de famille, dit Piaf. J'ai le livret de famille, là, mais j'ai Piaf. Dans mon livret de famille, il y a Piaf. Je l'écoute depuis tout un toujours. Je me mets avec mon grand-père de 86 ans, 91 ans. On danse avec Edith Piaf, les chansons de Edith Piaf et tout le soir.
Les chansons françaises.
Les chansons françaises.
Barry White, comment tu as découvert sa première chanson?
Barry White, j'ai aimé beaucoup sa voix sur l'octave qu'il a. L'octave. Il a la bonne musique, il a un bon son, il y a des bons studios. Barry White, il est loin dans la musique pour remonter au Pretenders. Ça fait longtemps qu'il est dans la musique et tout, là. C'est bien. C'est du bon funk. Du bon funky.
Alors, t'es un bon animateur, toi, de radio, là.
Comme vous, hein, Radio Galère. Eh oui, c'est ma radio préférée, Radio Galère.
Tu l'écoutes toujours, t'écoutes mes émissions?
Pour écouter les sons, j'écoute juste Tétan, va t'en sortir.
Parle de, comment il s'appelle? Mick Jagger.
Mick Jagger. Très vite, hein, il a marqué. Il a réussi à laisser un petit journal. Sinon, il n'y a rien qui sera lucide. C'est passé la vie, elle voit être de vécu pour un repas et un voyage. Après un boulot infernal de 169 heures par mois minimum. Je sais pas, c'est lucide. Je sais pas pourquoi.
Ramène le truc, William. Baby, that's no lie. What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this you're giving me? Is it in your kiss? Or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're near, feel the change, something moves. I scream your name, that's what you got me doing. I don't know why, can't get enough of your love, babe.
C'est une bonne question. C'est une question qu'on va creuser maintenant avec Warren Azoulay. Si peut-être on peut enchaîner. Donc je vais passer la parole à Warren Azoulay, qui est doctorant, qui a écrit une thèse actuellement de doctorat en droit sur la procédure de comparution immédiate à l'université d'Aix-Marseille. Donc il est à la maison. Il est rattaché au laboratoire de droit privé et des sciences criminelles. Donc son axe de recherche principal porte sur la mobilisation de méthodes d'apprentissage automatique, le machine learning, pour comprendre les mécanismes d'incarcération lorsqu'une telle procédure d'urgence est mobilisée. Du coup, on sent qu'on va rentrer dans une analyse un peu froide, quoi, de qu'est-ce qui se passe vraiment lors des jugements. Donc le titre de l'intervention, un titre assez engagé, quoi. La machine à punir, le mandat de dépôt en comparution immédiate est-il le fruit d'un arbre de choix ? Et on va interroger donc les déterminants sociodémographiques et sanitaires de la décision judiciaire.
Effectivement, je suis en train de finir une thèse de doctorat sur la procédure de comparution immédiate. Ce ne sera pas une analyse plus froide que Nelly Lassalle. Là, donc ça. En fait, cette année maintenant, moi je suis enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille et j'entendais parler de présomption d'innocence, de plein de choses vraiment super intéressantes. Et il y a deux expressions de Camille que j'ai beaucoup aimées. C'est un esprit conservateur et puis elle parlait aussi de paradigme. Et c'est pour ça aujourd'hui, je prends beaucoup de retours des universitaires parce que ces dernières années, pour financer en fait mes années de recherche, j'étais assistant de justice au tribunal de grande instance de Marseille, essentiellement à l'instruction. Et puis quand j'étais pas à l'instruction, en général, j'étais caché au TTR pour essayer de récolter des informations qualitatives, étant donné que le trois quarts de mon travail était purement des chiffres, du quantitatif. Et maintenant, à l'université, après avoir eu beaucoup de critiques de mes collègues au laboratoire de recherche, des universitaires, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un mur entre le théoricien et le praticien sur le terrain. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, maintenant, je prends toujours 5 minutes pour expliquer comment un universitaire, en fait, en vient à confronter, parce que c'est vraiment très rare. Nous, on a un mur disciplinaire chez les juristes qu'il n'y a pas en sociologie et qu'il n'y a pas dans aucune autre discipline, en fait. Et donc, je prends toujours le temps pour expliquer pourquoi un universitaire en vient à confronter, au final, le juridique et le judiciaire. Et au fil des discussions, il y a une redondance qui apparaît, c'est cette scission, ce mur disciplinaire. Nous, on est vraiment des dogmatiques positivistes, le droit, rien que le droit, et le droit qui est dans le code. Et le droit, c'est ça, selon la théorie. Il y a une idée qui est vraie, hein, parce que je ne vais pas être démagogique, surtout cette année où j'enseigne, c'est que les manuels, bon, c'est important pour les étudiants qui veulent réussir leurs études, mais ça, c'est une vérité d'ordre théorique. J'ai peut-être déjà répondu au principe de présomption d'innocence. On a donc des manuels qui nous présentent un droit de pur technicien. Et puis, quand je suis arrivé pendant 3 ans avec mes connaissances très théoriques en juridiction, il y a deux façons de me répondre qu'on avait constamment, qui a vraiment déclenché une prise de conscience. D'abord, à chaque fois, je parlais du principe d'individualisation de la sanction, de présomption d'innocence. Nous, on est amoureux de Beccaria en droit, on le cite tout le temps. Et à chaque fois, on me répondait avec une phrase qui commençait de la même manière, c'était « Non, mais en pratique, et puis, il y avait quelque chose derrière. » Ou alors, j'avais une contestation aussi constante en me disant « Bon, la fac, c'est bien. » Mais là, on a les mains dans le cambouis. Et ça, c'était intéressant, parce que ça veut dire qu'on en a qui pensent le droit, et on aurait les théoriciens, on a les ingénieurs du droit, peut-être le législateur, il fait le droit, et on a ceux qui vont devoir s'en servir sur le terrain. Tout à l'heure, j'entendais aussi en première intervention quelque chose de très intéressant, c'était de dire qu'il y avait des pratiques, en fait, contra legem qui s'étaient développées au fur et à mesure, parce que la façon dont le droit avait été pensé ne permettait pas, en fait, de pratiquer. Et donc, malgré ce dogme positiviste qu'on a en place, ce paradigme dominant dont parlait Camille, il est apparu de façon depuis près d'un demi-siècle, sous la plume de grands auteurs, mais dont des magistrats, qu'il faut penser le droit à travers d'autres modèles que le paradigme dominant pour le réinscrire dans son contexte social. Pour le réinscrire dans la question, dans une question de pouvoir, de jeu des acteurs, et... À cette époque, on lisait déjà sous la plume de magistrats qui s'étaient réunis au sein du mouvement d'action judiciaire que, en fait, on avait un pouvoir de punitivité pour légitimer des inégalités sociales. Et ils dénonçaient ça, ces magistrats, justement. On avait aussi, c'est pas pour rien que c'est dans le contexte des années 70 que sort surveiller et punir. Et Camille a cité Michel Foucault, mais quand Surveiller et punir, qui est le livre en fait le plus lu de l'université de droit, sort, c'était pas pour nous dépeindre un tableau de la délinquance du 19e siècle, c'était pour expliquer comment les choix s'opèrent. Et Foucault, lui, il observait le fonctionnement d'un nouveau système pénal, il le réinscrivait dans un processus global global où il nous expliquait que les juges font autre chose que juger maintenant. L'opération pénale, elle s'est chargée de tout ce dont on parle, c'est-à-dire des éléments extra-juridiques qui sont devenus des éléments judiciaires. Donc tout ça, pourquoi ? D'abord pour se défaire de l'idée que la pénalité, c'est avant tout une manière de réprimer des délits et plutôt d'analyser les systèmes punitifs de manière concrète, les étudier comme des phénomènes sociaux, et tout ça, on ne peut pas en rendre compte avec la seule armature juridique. Il faut aller voir ce qui se passe dans les autres disciplines, il faut aller voir sur le terrain. C'est aussi la raison pour laquelle il a fallu confronter l'idée universitaire que j'avais du droit à cette justice de terrain, à l'empirisme en fait et la théorie. Et quand j'ai observé pour la première fois les audiences de comparution immédiate, il suffit d'y aller, on parlait de justice d'abattage, c'est exactement ça. Et au final, quand un juriste y pense à la présomption d'innocence, au droit à la défense pénale, au droit au délai, souvent on dit d'une personne en CI, elle a bénéficié d'un délai, mais c'est pas un bénéfice, elle s'est saisie du droit que lui donne le code de procédure pénale.
Il est venu sans rien, il a commencé à travailler ici à maçonnerie, il n'est pas connu service de police, rien du tout, il a commencé à travailler, il a ramené ma mère ici en France, à l'âge de 25 ans, 30 ans, ma mère elle est venue. Et moi je suis né ici, je m'appelle Boukeria Aziz. Je suis venu ici à l'âge de. Je suis né ici à Marseille. Et j'ai commencé à faire des conneries à la justice à l'âge de 15 ans. Voilà. À l'âge de 15 ans, j'ai pris une moto. Une moto, mais volée. Les policiers m'ont dit de m'arrêter. Je ne me suis pas arrêté. Ils m'ont tiré dessus. J'emportais avec moi le policier. Ils m'ont mis en prison à l'âge de 15 ans. Ils ne m'ont pas donné de chance, aucune chance. Ils m'ont commencé à me frapper à l'âge de 15 ans. Après, ils m'ont relâché. Après, je suis ressorti. J'ai fait commencer à faire les plus gros délinquants. J'ai commencé à séquestrer des gens, à faire des séquestrations à cause de la police, parce qu'ils ne m'ont pas donné de chance à la police. La justice ne m'a jamais donné de chance, toujours de la prison à la prison. J'ai commencé à faire des séquestrations, j'ai fait des agressions. Parce qu'on ne m'a jamais donné de chance. J'ai demandé du travail, je travaillais, on m'a levé du travail. Quand j'ai fait une agression, je travaillais, ils m'ont levé du travail. On ne m'a jamais donné de chance, la justice. On m'a toujours mis en prison. On m'a frappé en détention. On m'a mis dans des camisoles. On m'a frappé, on m'a démonté. On m'a cassé la tête, on m'a ouvert les arcades. Quand il y avait une manifestation en 1987, voilà. Parce que voilà, j'étais en prison, la justice n'a pas voulu me donner de chance, elle n'a pas voulu me réintégrer, elle m'a toujours mis en prison. Alors quand je sortais en prison, je n'avais pas de travail, ils ne voulaient pas me donner de travail, je cherchais du travail, ils ne voulaient pas, et je recommençais à voler, et chaque fois je rentrais en prison. Et je rentrais en prison pour des plus aggravés, je commençais à faire des séquestrations, des agressions, voilà. Et après je commençais à faire des cambriolages. Ils ne m'ont jamais donné de chance. En prison, je rentrais dedans, ils me frappaient, ils me mettaient dans des camisoles, ils me piquaient avec des piqûres, des seringues pour m'endormir, dans des camisoles, dans des chambres pendant 3 jours. Ils ne me donnaient pas à manger, rien du tout. Ils me frappaient, rentraient à 3h du matin, ils me frappaient, ils me renfermaient. Il me dit, il me donnait un plat, il me mettait à poil, il me mettait un caleçon, à poil, sans couverture, sans rien, dans le matelas par terre. Il rentrait à 3h du matin, il me frappait, il sortait, et le lendemain, pareil, il recommençait pendant une semaine, il me laissait dedans, sans aucune chance.
Depuis des années, les ateliers thérapeutiques permettent aux patients en difficulté psychologique de s'exprimer par le biais des arts. Peinture, sculpture, théâtre et animation radio. Ces ateliers favorisent et valorise la créativité individuelle avec l'aide de soignants et d'artistes. Une épaule sur laquelle peuvent se reposer les patients avant de reprendre confiance et de regarder vers l'avenir. Michel et Willy.
Pour la viande aussi, je peux devenir des canards, des poulets, puis je les tue, les vider et les mettre au congélateur. Je n'achetais jamais de viande. Mon mari, il était ardoisier et moi, j'étais aide ménagère.
Tiger. Quand on est jeune, on s'amuse avec presque rien. Et puis la jeunesse, c'est des belles années. Elle prend la vie petit à petit. Des fois, les enfants, ils ont raison. Enfin, il faut qu'ils développent comme quoi ils ont raison. Ou même les adultes, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, après, j'étais entre la rue, quelqu'un qui m'hébergeait. Ça m'est arrivé de faire la manche pour manger. Et bon, on était deux à le faire, la manche. On a essayé de se débrouiller tant bien que mal. Mais c'est difficile de vivre la rue. D'avoir son appart ou une chambre ou un endroit où dormir bien. Parce que dans les foyers, c'est il y a toujours des histoires. Donc des fois, il vaut mieux dormir dehors que dans un certain foyer. Par exemple, à Madrague.
T'as dormi déjà à la Madrague ?
Non, j'étais juste à Forbin. Ouais, il y avait des escroqueries, des trucs comme ça. Et maintenant, ça a changé. Ils ont changé de système. Avant, il y a 5 ans, 4-5 ans, ouais, 5 ans, ouais, il y avait eu des escroqueries. Même moi, je me suis fait avoir. Donc, je suis resté un peu sans sous. Et après, j'ai tout récupéré. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, il y a des... cocaïne, machin bidule.
T'as pas pris, toi, ça ?
Si, j'ai pris.
Ah ouais ?
Mais j'ai tout arrêté. Et quand on le veut vraiment, même sans... j'avais même pas de médicaments pour dormir le soir. Et pendant un mois, après, c'était fini. C'était du Subitex. L'alcool, ça m'arrivait d'être en manque. J'étais voir le docteur, il m'a donné une pédicure, la petite cure, et des magnésium B6. Et j'ai arrêté l'alcool. Bon, ça m'arrive de boire une bière ou deux au début du mois, mais je me mets pas sous toute la journée. Et puis c'est une faiblesse, parce que si on tombe sur quelqu'un qui veut attraper quelqu'un qui est sous, moi je bois dans ma chambre, là au moins je suis tranquille.
Non, rien, je suis contre l'alcool. Maintenant que j'ai stoppé, il y a un mois, je ne bois pas une seule goutte d'alcool. Je mets une ou deux lattes de rouler, tu sais, avec de la drogue, j'ai stoppé, je suis contre ça.
Mais avant, est-ce que vous avez pris tous ces médicaments ?
Non, je buvais avant. C'était pour l'anxiété, pour être toujours gay. Mais je me faisais cogner.
Ah ouais ?
Moi, dans la rue. Mais vous savez que j'avais de l'argent, j'avais un compte d'épargne. Je ne pouvais pas retirer sans carte d'identité, sans adresse. C'est pour ça qu'ils m'ont orienté ici. Voilà. Je gère tout seul mon argent, je me paye mes dettes, et j'ai mes cigarettes, je m'achète du jus de pamplemousse. Aujourd'hui, j'ai bu de l'eau avec du sucre. Je bois, regardez ce qu'on me donne. Regardez, c'est sans alcool.
Ah bah c'est bien ça.
Et Guinness, c'est des petits. Oui, regarde Guinness, forme, énergie, vitalité. C'est ce qui donne aux gosses. Guinness, c'est une marque de lait de bébé.
Et
la Guinness, c'est irlandaise, je crois.
Je sais pas.
Et
Mais c'est pas avec du malt, avec la chasse du blé. Je fais très attention quand j'ai du courrier. Je reçois une fois par mois le relevé d'identité bancaire. J'ai payé toutes mes dettes, tous les forfaits hospitaliers, le loyer, ça
rien. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je serai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai des sourires de gamin, j'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Je te les offrirai en te serrant la main, il ne te reste plus qu'à passer la commande.
Donc nous on prend, si vous voulez aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse en tout cas, ce qui m'intéresse et pourquoi j'ai sollicité Eric et Nicolas, c'est surtout pour la question de l'écriture du travail social, l'écriture des travailleurs sociaux, des personnes accompagnées, et puisque c'est une, on verra après, c'est un point de débat. Souvent, ce qui nous a été reproché dans le travail social, c'est de ne pas suffisamment écrire. En gros, qu'est-ce qui fait qu'on écrit ? Pourquoi on écrit ? Qu'est-ce qui fait qu'on est freiné de faire ça ? Etc., etc. Donc, ça va se passer, je vous propose que ça se passe en deux temps. Il y aura un temps où l'un va présenter l'ouvrage de l'autre. C'est apparemment, ils sont bien exercés là-dessus, donc ils devraient nous proposer quelque chose de sympa. Et ensuite... moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un petit peu aussi ce qu'ils peuvent nous raconter sur leur rapport à l'écriture de leur pratique, soit la faisant, soit Eric, je ne sais pas si tu as écrit au moment où tu avais arrêté ou tu n'avais pas encore, tu allais presque arrêter de bosser, je ne sais pas, en tout cas à cette place de directeur. Donc, de voir cette histoire d'écriture et pourquoi et comment. Et évidemment, on pourra échanger sur leur contenu aussi. Je trouvais que c'était une belle introduction de commencer comme ça sur une chanson qui a à voir avec les mots, évidemment, les mots écrits, les mots dits. Et puis, c'était une façon aussi de rentrer dans cette discussion par un instant aussi d'émotion, puisque dans le travail de tous les deux, il en est fortement question. Donc d'émotion, de poésie, et de travail social, ce qui, voilà. Et donc, on ouvre à partir de là, et je vais donc maintenant laisser la parole à tous les deux. On va commencer comme ça. Nicolas, apparemment, qui va commencer par présenter le livre d'Éric, et vice-versa.
Ça s'appelle « Travail social, le grand malentendu ». Quelque part en centre-ville, je m'approche de la Molaire, drôle de bâtiment, art déco ou œuvre d'art moderne. Je grimpe les escaliers en recherche d'usagers de drogue. Sur la plateforme, quelques seringues usagées, mais personne. Je redescends. Un vigile est posté dans les escaliers. Il m'interroge sur ma présence. Je lui explique que je conduis un travail de recherche à la demande de mon employeur sur la présence d'usagers de drogue dans le centre-ville. Réponse du vigile, je m'en branle. Mais si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. J'hésite, puis je le suis. Je me retrouve avec lui au centre de contrôle du centre bourse. Il me montre les écrans, arrête une image et me dit, en voilà. Sur l'image, il montre un recoin d'escalier. Il détache son chien, lui met la muselière et m'invite à le suivre. Nous pénétrons dans les sous-sols du centre commercial. L'escalier est sombre, il sent l'urine, lumière blafarde. Je me demande ce que je fais là. Il s'arrête net dans l'escalier et crie « Sors de là !» Devant lui, je devine une jambe nue. Une jeune fille sort, le pantalon au pied. Elle a du sang sur les cuisses. Elle est apeurée. Je reconnais Isa. Je suis mal. Je me demande ce que je fais là. Je suis comme dans une scène de Tarantino. Et je me demande pourquoi je n'ai pas fait menuisier. J'ai envie de partir, je reste. Je demande au vigile de me laisser seul avec elle. Il profère quelques injures, il tire sur la laisse de son chien et il s'en va. Isabelle me reconnaît, elle ne sait pas quoi faire. et je la vois se baisser, prendre une seringue usagée sur le sol, la nettoyer avec l'eau croupie. Elle finit son injection. Je remonte les escaliers sans rien dire. Momo entre en trombe dans Transit. Je suis seul. Mes collègues viennent de partir, nous sommes en principe fermés depuis une demi-heure. S'il te plaît, donne-moi des pompes et des préservatifs, c'est pour Louisa. Momo connaît la règle. Pas de matériel pour d'autres, uniquement pour soi. Je la lui rappelle. C'est pour Louisa, elle est à la gare, elle est défoncée, elle tapine, elle fait n'importe quoi. Louisa est une jeune femme que l'on voit tous les jours, elle ne parle pas beaucoup. Elle accompagne un mec un peu bizarre. Louisa n'a jamais rien dit ni demandé, nous ne la brusquons pas. Louisa est ailleurs. Elle est posée là sans que l'on sache pourquoi. L'arrivée de Momo, qui appelle au secours pour Louisa, me bouscule. Je n'ai pas la force d'appliquer la règle que j'ai moi-même fixée. Je vais à l'infirmerie prendre un paquet de seringues, des préservatifs, et je fais un mot que je place avec les seringues et j'écris. Louisa, réagis. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Cette invitation. En écrivant, j'ai le sentiment de ne pas faire mon boulot, d'être dans l'affect. Louisa me touche, c'est vrai. Louisa m'empêche de penser, c'est vrai. Louisa me rappelle quelqu'un, c'est vrai. Le lendemain, je parle de la situation à notre superviseur. Je lui dis que je suis fatigué, que ces seringues données par dizaines m'empêchent de dormir, que je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que je fais, qu'il y a de la violence dans cet échange de seringues, que cette pratique me fait violence, que je ne devrais pas me mettre dans cette situation, que je suis un drôle de chef de service qui n'applique pas les règles. Chantal, la nouvelle éducatrice de service, me dit que je devrais m'abstenir lorsque les usagers me bousculent de trop, en particulier les jeunes filles, qu'il faut que je m'interroge sur mes tendances. Papa. 2 années plus tard, je suis tout seul à Transit. Nous n'avons pas encore ouvert. Quelqu'un sonne à la porte et je devine en transparence au travers de la vitre une femme et un enfant. Je pense qu'il s'agit d'une collègue de travail qui a oublié son manteau. J'ouvre et je découvre Louisa, que je n'ai pas revue depuis 2 ans. Louisa a changé. Nouvelle coupe de cheveux, plus sûre d'elle. Elle me présente sa fille de 18 mois, Delia. Louisa part s'installer dans le sud-ouest avec le père de sa fille. Je propose à Louisa un café. Elle me dit qu'elle a tout arrêté, qu'elle a changé de vie depuis la naissance de sa fille. Son compagnon est militaire, il n'est pas au courant de son passé. Je m'assente quelques instants pour aller chercher le café dans la réserve et j'entends la porte des locaux qui claque. Lorsque je retourne dans la salle commune, Louisa n'est plus là. Sur le comptoir, le petit mot que je lui avais griffonné est mis dans son paquet de seringues 2 ans plus tôt. Et sous le mot « Louisa réagit », il y a un autre mot de la main de Louisa. Merci. Je n'ai jamais revu Louisa. Je ne sais pas si elle a réussi son projet de vie, mais je sais aujourd'hui que parfois, ce que l'on estime être une erreur peut être vécu par l'autre comme un soutien. Voilà 2 premiers extraits de Travail social, le grand malentendu. Le grand malentendu. Éric écrit dans son introduction que le problème du travail social, c'est que trop souvent, les gens pensent que ce sont des gens qui vont bien qui s'occupent de gens qui vont mal. Et que c'est peut-être le drame. Et que du coup, il y a une espèce de condescendance, des fois, des travailleurs sociaux. Une espèce comme ça de, je sais pas, ils se sentent habités. Ils arrivent un peu comme des sauveurs du monde. Alors que la réalité, c'est pas celle-là. Je sais pas, j'ai envie de te laisser la parole parce que.
Ouais, Christophe.
Oui, parce que je voudrais lire un texte qui va dans le sens de ce que tu dis pour ensuite laisser la parole à Eric, si tu veux bien. Je vais bien t'emprunter tes lunettes, si tu veux aussi, au passage.
À mon avis, que vous êtes déçus avec celle-là, parce que ce n'est pas des lunettes qui permettent de...
Je m'en suis rappelé, je crois même des autres.
Ça, c'est comme ça. Alors, c'est dans le même ouvrage, le même livre. Oui, c'est dans le même livre. Un tout petit mot qui va dans le sens de ce que vient de dire Nicolas, vous allez voir. Je suis dans une période charnière où je perçois les relations entre mes fêlures et ce qui fait ma posture professionnelle.
ce qui détermine mes choix et mes actions, conscientes et inconscientes. Qu'est-ce que je reconnais d'intime dans l'autre ? Ce qui fait que j'arrive à gérer des événements difficiles, des situations professionnelles complexes, mais ce qui fait aussi que je ne me départ pas d'une souffrance intime. Je commence à cerner l'essence de ma professionnalité. La dépression m'éclaire et, est-ce un paradoxe, me construit. L'introspection est dure. Elle me réveille, elle réveille des blessures que je croyais fermées, que j'avais enfouies. Elle me rend plus humble. J'écris, je cherche, je me déplace, me heurte, je me bouscule. J'ai envie de fuir ce métier, mais je suis attiré. J'y reconnais une forme d'identité. Cela m'effraie. Quelques nuits sans sommeil plus tard, je rappelle Ève et propose de la rencontrer avec Maurice pour reprendre un nouveau travail.
Un petit dernier quand même.
Raoul. Raoul. Foyer Calendal. Raoul est revenu en colère et ils lui ont crevé les pneus de sa bleue.
La bleue, il faut avoir quelques années pour savoir ce que c'est.
Au moins 50 ans.
La bleue, c'était effectivement la mobylette avec laquelle on était super fiers. C'était le luxe du luxe, quoi, la bleue. Ouais, moto bécane bleue. Ils avaient imité avec les Peugeot et, tout. Hein, Raoul a décidé de monter...
Ceux qui avaient plus de sous avaient une orange, d'ailleurs.
Oui.
C'était plus cher.
Qu'est-ce qu'on fait? On parle des mobylettes, tout de suite. Ouais, mais les grises, c'était pour les prolos, nous. Raoul a décidé de monter sa bleue au premier étage et de l'accrocher avec son antivol à son lit, dans sa chambre. Les autres gars rigolent sur la terrasse et me regardent pour savoir ce que je vais dire. Raoul a raison, il est le seul à travailler comme apprenti, ça fait trop longtemps qu'on lui détériore son vélo moteur et qu'on ne lui propose rien pour le mettre en sécurité. Raoul a raison, et pourtant, un éducateur digne de ce nom ne peut pas lui laisser monter la mobylette dans la chambre. Je sais que ça va mal finir. L'ambiance monte, je me mets en haut des escaliers et je dis à Raoul de descendre immédiatement sa mobylette. Les 10 jeunes du service sont tous autour. Qui va gagner ? Raoul jette sa mobylette dans l'escalier, me fonce dessus, je le ceinture. Quelques minutes de bagarre, les jeunes crient. Raoul s'en va, fugue du foyer. 22h. Je rentre chez moi, diarrhée aiguë, remise en question. Et pourtant, je continue. Je suis en cours de formation d'emploi de moniteur-éducateur. Je ne peux pas quitter mon boulot. Je m'accroche. J'essaye de trouver un sens dans une structure hiérarchisée, conformiste, disciplinée, recevant des jeunes de 14 à 21 ans déracinés, révoltés, indisciplinés. Je suis pour ma part atterré, épuisé. Le service dans lequel j'interviens compte 3 éducateurs. Un est ancien champion de boxe, craint par tous les jeunes. Louis passe ses soirées à jouer aux dames et porte à sa ceinture un lourd trousseau de clés. Herman, le chef de service, est alcoolique chronique. Il cache son addiction à l'alcool en suçant. Oui, pardon, c'était spécial dédicace pour les éducs. Son addiction à l'alcool en suçant des pastilles mentholées qui ne font illusion à personne. Il mourra quelques années plus tard d'une cirrhose du foie à 45 ans. Puis-je appeler ça du travail social ? Règlement, contention, clé, cahier de liaison, exclusion, la règle et la réponse à tout.
Et puis c'est difficile parce que cet après-midi, on a animé un atelier d'écriture avec Nicolas et je disais ce qui est compliqué et formidable dans l'écriture, c'est que quand on commence, c'est plus nous qui commandons l'écriture. Il y a une espèce de logique de l'écriture. C'est ce que j'adore d'ailleurs. C'est que ça nous amène à des endroits qu'on n'avait pas prévus, l'écriture. Et quand on entend après quelqu'un qui nous lit, c'est très curieux parce que c'est... On n'a pas l'impression d'avoir écrit nous-mêmes. Mais c'est des personnages. Tu es un emmerdeur parce que tu choisis les... Enfin, surtout la situation de Louisa, qui est une situation que j'ai vécue avec beaucoup de douleur. Alors, tu posais la question, est-ce que j'avais commencé à écrire? En fait, je vais, puisque je suis en intimité, je vous expliquais comment ça s'est passé. Pendant des années, je suis un phobique de l'écriture, en fait. J'écris sur des petits carnets, j'en ai partout. Voilà. C'est une façon pour moi de... Je sais pas, de retenir les choses, de les mettre à l'externe, quoi. Alors j'en ai plein partout qui traînent, voilà. Et un jour, j'ai fait une dépression. Ça arrive, hein. D'ailleurs, je vous la recommande parce que c'est quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai un accident de parapente. Ma sœur qui est là s'en rappelle. J'ai un grave accident de parapente. Je chute et derrière, je sombre moi. Et puis, un soir, je suis dans mon bain. Pourtant, j'aime pas les bains normalement, mais bon, je suis dans les bains.
Il me fait peur quand il part comme ça.
Je suis dans le bain et ma femme me dit tu devrais écrire. Et je lui dis mais j'écris. Elle me dit mais pourquoi tu publies pas? Et je lui dis parce que je peux pas. Alors elle me dit pourquoi? Je lui tends un de mes petits carnets, c'était l'histoire de Saïd. Et elle n'a pas pu le lire jusqu'au bout, elle l'a plié. Et je me suis dit, c'est pas possible de garder toutes ces choses-là, parce que ça nous ruine, parce que ça nous empêche de dormir. Et je sais que beaucoup de travailleurs sociaux en sont là, c'est compliqué. Donc l'écriture de ce bouquin, pas le deuxième d'ailleurs, mais l'écriture de celui-là, c'était un peu une nécessité de voilà. Et puis une façon aussi de dire à quel point le travail social est une rencontre incroyable, quoi. C'est un voyage. C'est un voyage inouï. Parce que Louisa, parce que Raoul, parce que les femmes d'autres regards, parce que... Enfin, je reconnais des collègues ici. De rencontrer Suzanne, de rencontrer... Enfin, c'est des voyages. C'est incroyable. Et ce qui me... Alors, la deuxième raison pour laquelle écrire, c'est que les travailleurs sociaux... Enfin, tout ce que je disais, alors ça va pas. Tout ce que je disais sur le travail social, je trouvais ça... Bon, je vais le dire, chiant, quoi.
Ce que tu lisais, c'est ça que tu dis?
Ben, tout ce que... Alors, dès que les éducateurs écrivent, ils font le log. Psychologue, sociologue, anthropologue, philosophologue, oudéiste. Et ça m'agaçait au plus haut point, parce que je ne retrouvais pas dans ces écrits, comment dire ça, le quotidien. Le côté très très simple de notre boulot. Voilà le pourquoi. Pourquoi écrire? Bon, après c'est compliqué parce que c'est une espèce de mise à nu. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intime là-dedans. Peut-être que je me suis interdit pendant un moment parce que je me suis retrouvé à la place d'un directeur et un directeur il doit faire croire. Il doit porter une illusion, quoi. Lui, ça va, lui, tout va bien, lui, il est fort, lui, il sait faire, bon. Et peut-être qu'à ce moment-là, d'écrire des choses qui sont extrêmement intimes, c'est pas possible. C'est peut-être très con, d'ailleurs. Hein. Mais, enfin, voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire. Oui, non, si ce n'est que ces personnes-là m'habitent, elles continuent à m'habiter toujours. D'ailleurs, pourquoi je suis là? Je suis à la retraite, je pourrais ne plus être là. Alors, il y a du malheur dans ce qu'on raconte, mais en même temps, il y a beaucoup de bonheur dans notre boulot, parce que je le dis parce qu'elle est là, parce que rencontrer Vanessa, c'est quand même... Bon, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est une chance. Mais pas que toi. Et puis la formidable capacité de ces gens, parce que quand même, on est un peu des vermines. Même si moi, je dis ça avec... j'ai ma sœur qui est là. J'ai eu une adolescence compliquée. J'étais une casse-couille, on va le dire comme ça. J'aurais pu être dans la situation des gens que j'ai rencontrés. Je l'ai senti très près. Ce qui est terrible dans le travail social, et ça me permettra de parler du livre de Nicolas, d'ailleurs. Ce qui est terrible dans le travail social, c'est qu'on est délégué pour faire une chose et on fait autre chose.
En 2015, j'ai fait connaissance avec M. Éric Kérimel, directeur de HAS, Habitat Alternatif Social, par l'intermédiaire de Liliane Géhu, aujourd'hui décédée. Je lui ai proposé de faire des ateliers radiophoniques avec les patientes. Ma demande a été accordée.
وحلبت بعلي وحلبت بيوم وحلمت بعلي وحلبت لا 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 J'ai rêvé d'un monde, j'ai rêvé d'un jour. J'ai rêvé d'un monde, j'ai rêvé d'un jour. Les hommes partageront leur savoir, ahlan, ahlan, wa sahlan. Au lieu d'exploiter la misère, yallah, yallah, ils vivront entre amis, frères, banniront la guerre.
C'était la voix des 100 voix. Atelier radiophonique, réalisation Kamaridir. Voix Yasmine, participation de HAS. Nous remercions le marabout, un chez soi d'abord, et le professeur Thomas Bossetti, médecin psychiatre, et l'aide précieuse de HAS et Éric Kérimel, et tous ceux qui ont participé, de loin ou de près, à la réalisation de ce travail. Première partie.
Ah, it was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love la mademoiselle. Now that the young monsieur and madame had rung the chapel bell, c'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook. When Pierre found work, the little money came in, worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music sort of fell for various reasons. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you.
They bought a souped-up Mercedes, was a cherry red 53. Drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there, whippy air was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old, it goes to show you never can tell.
Mai 1990, la ville de Tchintabaraden, située à quelques centaines de kilomètres de Niamey, capitale du Niger, est le théâtre d'un incident isolé entre quelques Touaregs et des gendarmes nigériens. Cet affrontement dégénère pourtant rapidement, avant de déborder sur les territoires maliens voisins de l'Azawad ou Azawar et de l'Adrar, où des accrochages entre Touaregs militaires maliens étaient signalés dès 1989. Amorçant le cycle bien connu de la violence et de la répression, la révolte des hommes bleus marque le début d'un conflit sanglant aux profondes implications nationales et régionales. Cette nouvelle guerre des sables entre les Touaregs nomades et les appareils étatiques nigériens et maliens part d'un contentieux très localisé. Le détournement de l'aide internationale destinée aux camps d'exilés installés au Niger, ces Touaregs avaient gagné l'Algérie ou la Libye en trois vagues successives. La première au début des années 60, fuit le régime radical de Modibo Keïta au Mali. Les deux autres y avaient été poussés par les deux grandes sécheresses des années 1970 et 1980. Le nombre, plus de 40 000 selon les autorités algériennes, devenant un fardeau difficile à supporter. Un accord était conclu avec le Niger, en vertu duquel la grande majorité d'entre eux se trouvaient rapatriés vers ce pays, mais pour s'entasser dans des camps de fortune. C'est donc la mauvaise gestion de l'aide internationale qui leur était dévolue, combinée avec les comportements vexatoires des autorités nigériennes qui mit le feu aux poudres. L'affaire prend d'emblée un tour d'autant plus dramatique que la réaction de l'administration nigérienne est extrêmement violente. L'armée et les forces de police se signalent par des exactions dont les principales victimes sont des civils. L'affaire prend un tour d'autant plus dramatique que la réaction de l'administration nigérienne est extrêmement violente. Manu Dayak, un des premiers leaders de la rébellion, soutient que la situation des rébellions armées qui sévissaient dans le nord du Niger depuis 1990 résulte d'un mauvais règlement du dossier dit de l'affaire de Tchintabaraden par les animateurs de la conférence nationale. Conférence ayant réuni du 29 juillet au 30 novembre 1991 ceux qui se sont proclamés les forces vives de la nation pour débattre des principaux problèmes du pays en faisant le bilan de trois décennies d'indépendance en vue de jeter les bases d'une nouvelle construction politique au Niger. Pourtant, l'attaque meurtrière menée le 7 mai 1990 entre la localité de Tchintabaraden, dont les conséquences ont servi de prélude au déclenchement de la rébellion armée, a été chronologiquement précédée par d'autres événements, dont l'arrestation près d'Arlit en 1982 d'un commando de 15 hommes, parmi lesquels 13 Maliens qui se préparaient à commettre des actes de sabotage sur les installations minières, à prendre en otage des expatriés et à s'emparer d'un dépôt d'armes. Le brusque départ en exil en Libye, en 83, d'un Touareg Khaled Moussa, emportant avec lui, selon la rumeur, d'importants documents militaires. l'attaque de la localité de Tintabaraden le 29 et 30 mai 1985 par un groupe de 14 personnes qui voulaient s'emparer des fonds de l'agence spéciale du bureau de poste. Cette attaque s'est soldée par la mort de deux gardes républicains et un gendarme blessé. L'arrestation de 13 personnes le 14 mars 1990 dans la région d'Ifirouane, pour la plupart des rapatriés de Libye suspectés d'appartenir à un mouvement d'opposition appelé Groupe 215. L'interception et l'arrestation d'un groupe de 13 rapatriés de Libye qui auraient tenté d'attaquer le poste de peloton nomade de la garde républicaine de Toufaminir dans la nuit du 21 avril 1990 en vue de reprendre possession d'un véhicule saisi par les autorités administratives et mis à la disposition du dit poste. L'assassinat dans l'après-midi de 3 mai 1990 d'un garde forestier et des deux civils l'accompagnant dans l'arrondissement de Tintabaraden Ibidam. Mais c'est particulièrement l'attaque du 7 mai 1990 contre Tintabaraden qui a servi de détonateur à la rébellion, car l'armée, dans son intervention, a commis des exactions sur des civils innocents. On a alors parlé de plusieurs centaines de victimes dans des exécutions sommaires. De tels événements sont suffisamment graves pour envenimer les rapports entre les autorités politiques et administratives et les populations qui les ont vécues. Ténéré Dayak Touareg, réfugié en France, nous raconte son calvaire.
Les ordres pour diriger les Touaregs et rentrer les premiers maliens. Et rentrer avec vos galons, colonels, comme celui qui est commandeur, est-ce qu'on est celui qui est colonel, est-ce qu'on est colonel. Celui qui est capitaine, est-ce qu'on est capitaine, celui qui est adjudant, est-ce qu'on est adjudant, celui qui est dirigeant, est-ce qu'on est dirigeant. J'ai vu que ce troupeau-là, je perds qu'un montant que pour essayer de ce troupeau-là. Je suis surtout rentré en Algérie. De l'Algérie, je suis rentré en France depuis que je suis en France ici. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai passé ma nuit devant, j'ai tombé sur des cartons, je suis tombé malade. C'est pas question de. J'ai cherché pour sauver ma tête et sauver des enfants qui avaient laissé devant moi, derrière moi.
Vous êtes un Touareg d'Algérie ou un Touareg du Mali ou de Libye?
Moi, je suis né, je suis un Touareg de Hogar. Hogar, c'est l'Algérie, mais je suis né à Kidal. Mais je suis né au Mali. Comme les Touaregs de l'Algérie, les Touaregs du Mali, les Touaregs de Niger et de Libye, ils sont des frères, c'est la même langue. Tu sais, avant les Touaregs, ils n'ont pas. Les Touaregs qui viennent se camper en Algérie, ils vont se camper au Mali, ils vont se camper au Niger, se camper au Libye. Ils ont quatre étoiles, ils sont autorisés, ils sont des bouchons de désert. Même dans le ciel, s'ils trouvent du sable, ils vont se camper là-bas. Personne ne change. Je suis mélangé. Aussi, j'ai trouvé que même mon cœur me brûle, c'est pas des Touaregs que j'ai laissé là-bas. Les Touaregs, c'est pas des Touaregs que j'ai laissé en Algérie. Les pas des Touaregs que j'ai laissé là-bas au Mali, au Niger. C'est eux qui ont beaucoup de problèmes.
Racontez-moi, est-ce qu'ils ont souffert les Touaregs d'Algérie ou pas depuis longtemps vous avez eu toujours des chefs, des grands chefs qu'on n'entend plus parler d'eux.
Les premiers chefs de Touaregs, c'est Tihinal, celui qui commande toute la Berbère. C'est pas les Touaregs, c'est le chef de toute la Berbère, Tihinal. Après Tihinal, il y a Koussem. Après Koussem, il y a Moussa Akhamouk, c'est lui qui commande toute la Touaregs de Hogar, il hésite à rien dire ça. Après, pourquoi les Touaregs d'Algérie n'étaient pas parlés?
Ils ont peur des gouvernements.
Pourquoi? Il y a Hajj Betou.
Justement, on est à Hajj Betou, c'est qui ce Hajj Betou? À l'époque, on a beaucoup utilisé quand même.
Al-Hajj Betou, c'est un Touareg. Al-Hajj Betou, il était en prison à Skikda. C'est un région de l'Algérie. Pourquoi? Ils ont dit que Al-Hajj Betou, c'est celui qui donne aide à la Touareg du Mali et Niger. Oui, il aide les Touaregs du Mali et Niger. Pourquoi? Après, on ramasse un qui est chef de tous les Touaregs. Et pour aucun touriste Touareg. Les Touaregs ne sont pas des touristes. Dans le monde entier, vous ne pouvez trouver un seul Touareg qui ne sait pas. Il n'y en a pas dans cette monde entier. Al-Hajj Betou, il était en prison. Pourquoi ils ont pris ils ont ramassé son argent, le gouvernement algérien. Pourquoi ils n'ont pas ramassé les généraux? Ils sont en train de voler des volcans de Hogar plein d'or et de Berger. Hein? Vous savez qu'il y a des volcans? Hogar plein d'or, il y a que des généraux qui viennent rentrer des camions d'or et leur vendre. Les Touaregs ne sont pas des généraux de là-bas. Al-Hajj Betou, il était en prison, ils ont tout pris son argent. Après la capitale, il est sorti de Al-Hajj Betou de la prison. Il est sorti. Il a dit que c'est toi qui aides les Touaregs, tu vends des armes. Si moi je suis le Hajj Betou, c'est pas je vendre des armes. Je vends des missiles pour les Touaregs de la casse de défendre sur leur volcan que tu es la laissé.
des Algériens comme nous, ils sont quoi comme nous, ils sont quoi comme nous. Ça veut dire quoi? Tu t'es pas construit une armée nationale par des soldats, non par des généraux. Tu t'es construit une armée nationale par des soldats et des caporaux, pas des généraux, par des soldats et des caporaux. C'est lui qui comprend ce point, il est cassé la tâche et voir. Ça veut dire quoi, des caporaux et des soldats? Après, il y a un autre, Martin Biaour, vous avez entendu lui? Martin Biaour, il est de Rambert. Maintenant, il y a une rébellion qui est engagée en Mali, pas contre les civils. Toutes les civils aiment Biaour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas contre les civils, il est contre l'armée. Il est contre l'armée. Ils ont tout fait pour le prendre, mais il n'était pas le prendre. Explique, c'est qui ce Martin Biaour? C'est qui exactement? Martin Biaour, c'est un chef qui était dans la République, qui était dans l'Union algérienne. Il a tiré sa femme et ses enfants. Il a pris la fuite, il est installé entre l'Algérie et Mali. Il n'est pas contre les civils. Comme j'ai pas terroriste qui tue les enfants et les femmes, mais non, il est contre le gouvernement, il est contre l'armée. Tu m'as dit quoi? Les Touaregs, ils ont parlé ici, les Touaregs, la Géry, qu'est-ce que c'est? Les Touaregs travaillent. Travaillent que le trafic de la cigarette, transport de la cigarette, que Niger et Nigeria, pour les vendre à l'Algérie. L'armée sort, ils voient du fait que le Touareg sur la ville, ils lancent les missiles sur des véhicules. Ils s'en foutent, ils sont morts. C'est mort, pas aucun, il n'y a personne qui te défend sur toi. Après, à ta marzette, il a réussi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gouvernements, mais je ne sais pas pourquoi ça. J'ai été interdit. Il y a des vieilles maisons qui ont des habitants, des droits avec des femmes. Il y a un colonel qui est venu casser les maisons, et les filles qui font droit avec des enfants, dans les tentes. Après, le gouvernement algérien vient, les gendarmeries demandent, regarde, toi qui es toilette, tu es d'où? Mais demande pas moi, tu es d'où? Demande moi, tu trouves tout. Les tribus des Touaregs écrits, partie finale, sur les montagnes. Mais ne demande pas moi. Si j'ai pédé que moi je suis algérien plus pur que toi. Vous, les Touaregs, vous avez une langue, vous avez une culture, vous avez une tradition. Nous avons une langue qui s'appelle langue tamasha. Nous avons une langue qui s'appelle tamasha. Nous parlons de langue arabe. Moi, mon père, c'était le père de la langue arabe, et c'est pas de ce que tu dis. Et ma mère, nous avons été titulaires. Vous pouvez nous parler un peu au tamashek, un peu. Bon, le coup ici.
Vous savez ce qui s'est passé en Kabylie quand même? Il y a une rébellion, eux aussi revendiquent leur culture, leur... Comment vous voyez la Kabylie là?
Moi je vois que la Kabylie...
Est-ce que c'est le même problème avec les Touaregs ou est-ce que...
Les Kabylie c'est le même problème. Notre équipe c'est Tifina. Ça ne dépend pas comme nous. Les Kabylie cherchent qu'ils dépendent sur le drapeau des pouvoirs. C'est pas un drapeau d'hier. C'est un drapeau des années, ça fait combien? Ce drapeau existe, c'est le signe de pouvoir. Il n'est pas mort par le terrorisme. Non, l'Habib,
سنني سيكون لنا الطوارئ لتشكيل صار المجرمين دونك الميزان اللي مورا باغي توريس يبردو لو سجزير
كومون جو نو كونيت اكسبيكيو سور حبيب سيكولونيل
محبيب سيكولونيل الطوارئ اللي تي عندنا با لي سيكون لا بريل انتري هوكار الى 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 assassiné des enfants, lui, il n'a pas accepté. Il avait que je pouvais criminel. Il est en train de faire ce petit arrondissement qui entre la région de Tamasek et la région de Tamasek. Il a dit qu'il s'appelle Tanzan Aten. Tanzan, il était mort là-bas. Il habite dans une tente. Il n'est pas dans une villa. Comme les autres généraux, les autres connaît Alexandre Frère. C'est là-bas qu'il a tué. Il a fait quatre pas dans sa tête. C'est ça, c'est l'histoire, la Bible.
Quel âge ?
Il ne sait pas. Il a trois enfants. Son mari.
Manu Dayak, il est né dans la vallée de Tiden, au nord d'Agadez, et appartient à la tribu des Ifogas de l'Aïr. À l'âge de 10 ans, il suit avec réticence les cours de l'école française nomade d'Azel. Forcé par l'administration française, mais il prend goût aux études et continue sa scolarité au collège d'Agadez avant de partir travailler à Niamey. À 20 ans, il part aux États-Unis où il poursuit ses études, bac et études supérieures. Entre New York et Indianapolis. Tout en travaillant, en 1973, il part à Paris et s'inscrit dans la section de l'École pratique des hautes études technologiques en anthropologie culturelle et sociale du monde berbère. Il s'y marie avec une Française, Odile, et ils ont eu ensuite deux fils, Maouli et Madani. En tant que chef du Front de Libération Tamous, FLT, scission du Front de Libération de l'Aïr et de l'Azawad, FLAA, puis leader de la Coordination de la Résistance Armée, CRA, il est l'un des principaux chefs de la rébellion Touareg des années 1990. Le 15 décembre 1995, en vue des négociations, il doit rencontrer le président nigérien Mahamane Ousmane et embarque dans un avion affrété par un chargé de mission du gouvernement français en compagnie d'un journaliste français, Hubert Lassier, et deux autres chefs de la rébellion Touareg, dont Hamad Ahmed Ag Khalou et Yahya Wil Wil. Mais selon des témoins oculaires, juste après son décollage, l'avion prend feu, explose puis s'écrase, tous ses passagers sont tués. Cet accident tragique a contribué à forger sa légende. Il est aujourd'hui connu comme celui qui a rappelé au monde l'existence et la souffrance du peuple Touareg.
Je sais que s'il y a encore un vie,
va mourir toujours, il sera toujours défendre sur le peuple de la révolution. Parce qu'il n'a pas aucun problème avec le droit de la révolution. Moi, si j'ai dit ce que j'ai contre je dis que je suis la Touareg, Touareg d'Algérie, je suis parti en Libye pour m'engager l'armée. Pourquoi? C'est pas moi seul. Il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines. C'est pas moi seul. Il y a des Touareg, c'est pas moi seul. Nous sommes tous regroupés. Donc, nous sommes regroupés en Libye. Je suis rentré dans l'armée libyenne. Je suis été en guerre, en Tchad. Je suis été en Tchad, ce qui s'appelle Djemina. En Djemina. Je suis parti à la guerre, je suis un sergent-chef. Je suis retourné à la capitale libyenne, je suis un sergent-chef. J'ai trouvé après, donc, les Touaregs qui sont des hommes de guerre. Ils ne font pas marche arrière. J'ai vu devant moi un Tchadien qui ses pieds étaient cassés. Il a la terre de son pays qu'on va dans sa main. Il m'a dit que moi, il m'avait un rapport. Il m'a dit que moi, je sais que toi, tu n'es pas un Libyen. Tu es un Touareg. Il m'avait dit que je sais que il n'y a pas des gens, les Libyens ne peuvent pas rentrer dans cette montagne que les Touaregs et qui te va déviser. C'est eux qui sont des hommes de guerre comme nous. Il n'a plus la terre de son territoire, de son pays comme ça. Il m'a dit que moi, si je meurs, je meurs à cause de mon pays. Mais toi, Touareg, retourne dans ton pays. Dès le bas que j'ai lancé mon cache-décoffre, je l'ai coquillé. Je suis rentré à tout pays. Nous sommes tous les groupes de Touareg. Nous sommes des Touareg. Nous avons fait un grand réunion. Ça a fait des milliers de combattants, des adjudants-chefs, des colonels, des commandants, des capitaines. Nous tous les groupes. Nous avons fait ça. Nous avons dit, regarde, le chapeau libyen, ça ne vient pas sur ma tête. À l'instant que les enfants Touareg, les enfants, ils ne sont pas libres. Et les désert de l'allié Michel. Nous sommes tous sortis. Nous avons pris des armes. Allez, Michel Mali, nous avons fait la rébellion populaire. J'étais dans une rébellion qui s'appelle Arla, une rébellion qui s'appelle FPLA, une rébellion qui s'appelle MPA, une rébellion qui s'appelle FIA. Ils sont des groupes Touareg, FPLA, FIA, MPA, Arla. Ils sont tous regroupés, ils sont rentrés au Mali, Michel. Ils ont attaqué des villages, ils ont attaqué des terres, ils ont attaqué des avions, il y avait des morts. Normalement, ils n'ont pas marché rien. Allez, il faut mourir ou bien, il faut tout faire. Pour trouver une solution pour des enfants comme ça, c'est le dessin. Lorsque sont rentrés au Mali, je vous le jure que le gouvernement malien était père. Tout le monde, les soldats maliens, ils ont tout pris la fuite, rentré à Bamako. Les déserts étaient restés, ils étaient. Après, ils ont lancé, ils ont parlé, ils ont fait un téléphone. En France, ils ont dit que nous avons, il y a des militaires qui sont avec au Mali, qui sont en train de les attaquer. Après, notre chef a créé un journal. Allez avec Garali, avec Mandek, que nous ne sommes des manières, nous sommes des toilettes, les hommes blés, nous sommes des déserts. Nous sommes là dans le désert pour défendre sur les enfants. Le gouvernement malien a accepté pour qu'elle dévise le territoire. Nous avons fait un pacte sur le CCF. Après, nous avons engagé, nous avons pris notre territoire. Donc, j'ai pu dire, avec Gaddafi, pourquoi Gaddafi, pourquoi il aime Gaddafi Touareg ? Gaddafi a trouvé les Touareg, nous sommes des hommes de guerre. Maintenant, je vous dis, mais non, mais je suis en armée. Libyen, toutes les deux femmes qui parlent avec Gaddafi, l'homme qui est en train de battre, le colonel, il est Touareg, il est déjà lui. La femme qui est battue, c'est un gros cachet. Il est un sergent avec moi, il est malien, il est Touareg. Tous les gars d'accord de lui sont Touareg. Il aime les Touareg, pourquoi ils sont des hommes de guerre. Il sait que si il met les Touareg derrière lui, il n'y a personne qui s'approche de lui. Ils sont des hommes de guerre. Les Gaddafi, s'il n'aime pas, les gars sont de lui, il n'est pas le Touareg. S'il n'est pas le Touareg. C'est un président d'un pays qui est avec un bout de Touareg, avec les turbans de Touareg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime les Touareg. Je vous le jure, le jour que je suis né, moi, je suis pas né dans le deuxième hôpital. Je suis né dans le temps que les sables d'Amnésie. Ça veut dire quoi, les Touareg, les sables d'Amnésie? Ça veut dire que là que je suis né, ma tête n'est pas tombée dans une matelas. Elle est tombée dans les sables. Là que je suis né, c'est pour cela que les sables d'Amnésie. Les Touareg, c'est comme ça. J'ai des chansons, cette chanson-là que j'ai dit à cette montagne qui s'appelle Terrarar. Terrarar, c'est une montagne de Touareg, bien que nous sommes cette montagne de l'Evelion. Je voulais dire, nous avions avec les missiles, ils étaient pas dans cette montagne. J'ai pris ma guitare, j'ai vu des soldats malins qui sont rentrés dedans. J'ai dit une chanson avec le Touareg. I'm going
بنات الغدا ننوبل ley nen me de sa dunia ar ko ke ta motei me de sa dunia ar ko ke ta motei
la tenye
territoire occupé par l'armée marocaine. Marocains, ils sont pas libres. Ils sont libres, ils sont toujours dans la main. Il y a toujours des armes à contacter. Surtout dans les prisons, c'est pas contacté. C'est des gens qui cherchent encore à défendre la solidarité. C'est ça. Ils sont tous des Sahraouis, ils sont tous des gens du désert. Moi, tu demandes la politique, qu'ils sont les Touaregs. Je te l'ai dit. Au Maroc, il n'y a pas les Touaregs, ou les Touaregs, ou...
il n'y a pas la télévision marocaine. Il n'y a pas encore les Touaregs marocains. Encore, il n'y a pas de Touaregs à Tunisie. Les Touaregs, moi, j'y parle, ils l'ont Touareg. J'ai raconté les femmes marocaines avec les Touaregs au Maroc, j'ai dit à même moi. Est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais à ta mère, machin? Maintenant, j'ai pas besoin de faire. Allez, mes vidéos, c'est pas des Touaregs. Pourquoi ils disent que c'est des Touaregs? Ils savent que tout le monde aime les Touaregs. Les Touaregs dans les Germains, ils les dirigent.
Donc le Maroc, il veut lancer maintenant le tourisme du désert. Avec le petit morceau qu'ils ont là-bas.
Et pas des Touaregs au Mali. Il y a deux Touaregs là-bas, comme le dit au Maroc, pas des Touaregs à Tunisie. Les Touaregs à Niger, Mali, Libye, Algérie. C'est fini. Pas des Touaregs là-bas.
La plus grande concentration des Touaregs, c'est où? C'est en Algérie ou c'est...
Mali, Algérie. Mali, Algérie, Niger. C'est les plus grandes. Mali, Niger, et Algérie. Les plus grandes.
Il y a un parc. Pourquoi il y a un parc national des Touaregs? Pourquoi un parc? Comme une réserve ou quoi?
Bon, cette parc, c'est une parc qui régroupe toutes les Touaregs. S'il y a un problème, s'il y a un mariage ou bien comme ça, régroupe toutes les Touaregs là-bas, dans cette parc. À Tassili, c'est les Touaregs, oui, Tassili. À Rougar, c'est les Touaregs, oui. Pas les Touaregs dans les autres pays. Il n'y a que 7 pays qui ont les Touaregs. Les Touaregs libyens, les Touaregs, c'est le Touareg de Mali. Nous avons une seule langue. Notre langue, c'est une langue. Moi, je parle en Libye, je parle avec une langue. Je parle en Algérie, c'est la même langue. Au Mali, la même langue, mais j'ai la même langue. Et les autres qui ont braille de l'humanité, qui sont les Touaregs de Maroc, ils n'ont pas aucune langue. Ils ne connaissent pas notre langue. Nous, ils ont un, deux. Les Touaregs, les zombies, ils ne sont pas des zombies. Ils sont de notre couleur. De notre couleur, oui. L'anglais, il a le sang, son langue. Il a toujours son signe à côté de son tête. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Je suis en guerre contre mon peuple, je suis encore en guerre sur les gens qui mentent au Maroc, à Tunisie, de quelle mission des Touaregs. Ils ne sont pas les Touaregs. Je suis contre eux, moi, ils ne sont pas les Touaregs. Ils ne sont pas les Touaregs. Pourquoi ils sont contre eux? C'est pas que demain ils vont faire des bêtises et gâter les noms des Touaregs. C'est vrai, peut-être. C'est pas qu'ils vont faire des bêtises et gâter les noms des Touaregs. J'aime que l'homme Touareg, il n'a pas aucun commun avec personne. Les Touaregs, les Germains, les Libyens. Je répète ça. C'est lui qui vous a dit que je suis un Touareg de Maroc. Voilà qu'à l'amener devant moi. C'est lui qui vous a dit que je suis un Touareg de Tunisie. Voilà qu'à l'amener devant moi. J'ai rafissé en France. Si la France me dit que les sorts d'ici dans mon état français, je rentre en Allemand. Je rentre en Allemand. Les Allemands encore aiment les Touaregs. Je reste en Allemand vers la Belgique pour toujours combattre mon peuple. Je combattre mon peuple. Je ne suis pas comme des autres pays qui sont riches. Ils ont du pétrole et de l'argent. Qui vient de la démocratie politique. Je demande à une politique, c'est-à-dire que j'ai tout de suite pris notre problème dans deux sites qui donnent Agadez. C'est des sites. Les deux sites prennent notre problème de Touareg de désert. Si j'ai du pétrole, mon peuple est bien, je ne vais rien faire ici. Je reviens de désert en montant avec des petits liens de bûche. Ouais, mais c'est pour cela que c'est pour cela que je suis en train de payer Touareg. Ils ont tout volé. Moi, que j'habite, moi, à Kenok, il y a une case. Ils sont dans la terre comme ça, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas trouvé personne qui va l'utiliser. Aucun pays qui accepte de venir de faire cette gaz. Ils ont volé le gaz. Le gaz, c'est un style gaz de pépère, toute cette Touareg. Ça finira Touareg, il y aura toujours la guerre des Touareg qui défend sur leur peuple, sur leur territoire. J'ai rencontré un ami américain qui est venu pour le visiter. Un chanteur, il m'a dit que moi je suis un Indien américain. Je lui ai dit, monsieur, moi je suis un Indien du désert. Il m'a dit, toi tu es un Indien américain, moi je suis un Indien du désert. Il est resté avec lui, il a marié avec une femme Touareg. Il est rentré en Amérique avec elle. Favoriser, si je trouve quelqu'un qui peut m'aider, si je trouve quelqu'un qui peut m'aider à m'aider, j'ai des secrets sur les autres peuples, les autres peuples, les autres peuples, les autres peuples. C'est tout. J'habitais sur le site. Sur le site, il y a des mots secrets. J'ai confirmé le secret Touareg dans ce site. Tu peux ouvrir le site. Tu vois des photos et la politique. Mais notre politique, tu peux les voir. Si je sais, je trouve quelqu'un qui peut m'aider pour faire sortir toute la vie, toute la réalité sur des journaux, je te jure, j'ai des toiles de vie. J'ai des toiles de vaisseaux sur les journaux. Pour que tout le monde, dans les jours
Erdogan va voir les parlements de l'Atlantique. C'est la démocratie, c'est pas un terroriste. Parce qu'il nous reste un chef historique qui est vivant. Un grand chef Touareg. Il y a des chefs Touareg. Il y a une panne d'Akidane, il y a le fils de Malek, son fils. Il n'est pas grand, il n'est pas grand, c'est bien, j'ai plus que lui.
Vous avez des rois, hein? Des anciens rois.
Nous avons Kausen, nous avons Tilvinel, nous avons Tilvinel, nous avons Tilvinel. Le sabre de Kausen, deux personnes comme une,
c'est très important ce que tu dis, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Vous défendez la culture et la souveraineté d'un peuple qui est des peuples les plus anciens qui existent sur la planète. Tu sais, l'humanité, elle est sorte. Quand tu vois la culture rupestre du Tassili et tout, jusqu'à présent, les chercheurs, ils n'ont pas encore compris l'existence de ce peuple. Aujourd'hui, tu es en France, ces témoignages, à mon avis, il faut que ce soit des témoignages pour les savoir partager, hein, et éclairer la conscience du peuple français et européen de la rébellion Terghi et la tragédie du peuple Terghi. À mon avis, donc, tu peux soit en faire un livre, soit créer une association d'aide et de soutien au peuple Terghi. Tu sais, en France, il y a beaucoup de moyens. Mais à mon avis, à mon avis, écrire l'histoire, toi tu peux le faire parce que tu as beaucoup d'éléments sous ta main. Tu peux écrire un livre, tu peux témoigner, tu peux organiser même des rencontres avec des citoyens français et leur parler de cette tragédie Terghi. Parce que la tragédie Terghi, c'est toi qui la portes et il n'y a pas d'autre qui puisse la partager.
Monsieur Patrick, qui sont, tu n'es pas sur l'état de toi seul. Moi, je n'ai pas trouvé personne qui devait dire. C'est pour ça que je me dis que je vais donner le numéro de Awad. Je n'ai pas trouvé personne qui devait dire. J'ai tout. Cette histoire des passés, l'histoire des Hongrois, j'ai tout sur le dessus. Et je connais tout. Je peux faire sortir le livre. Mais, qui peut t'aider? Je n'ai pas trouvé quoi mettre. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien à faire. Je voudrais que tout le monde, il sache l'histoire de toi. Je cherche toujours. Je passe un œil, je vois les photos de toi et de désert sur des cabines comme ça, je pleure souvent. Je sais que tu vois cette photo, tu sais pas, ils sont trouvés sur une autre personne d'histoire. Tu vois cette photo, c'est qui l'histoire?
Good job.